Alors, la ligne Maginot, d'une façon générale, fait penser aux murs. Et les murs, c'est toute une philosophie. Je ne vous l'apprends pas, particulièrement d'actualité. De tout temps, presque, les hommes ont essayé de se protéger de ceux qu'ils ne connaissaient pas, de leurs voisins ou de leurs frères plus éloignés. Et durant l'histoire, en général, ces murs, ces fortifications n'ont joué leur rôle que très peu de temps. Vous avez ici pour mémoire, bien sûr, quelques vues de la muraille de Chine, et puis à droite, le mur d'Adrien, qui sépare l'Angleterre à peu près de l'Écosse. Et puis ici, bien sûr, un mur assez triste, puisque c'est celui qui se trouve actuellement en Palestine. Alors, la ligne Maginot, on l'a appelée aussi la muraille de France. C'est vrai que c'était un grand dessin. On a utilisé depuis toutes sortes de qualificatifs pour la décrire. On a parlé de monstres de béton abandonnés. On a parlé aussi d'un décor de science-fiction. Un géoglyphe contemporain. Géoglyphe, c'est un mot à la mode que les géologues apprécient. On a également montré que ces monstres de béton sont hantés, je cite, par les fantasmes et par les fantômes d'un malaise mémoriel, on y reviendra, le sommet de l'inutile et de la stupidité, des cathédrales militaires enfouies dans le sol, un gouffre financier. Ils se sont rendus sans combattre, on l'entend très souvent, et il était important de le rectifier ce soir. Et puis, le symbole de notre défaite, alors ça oui, infamante, l'œuvre d'un gouvernement, Paul Reynaud, la Troisième République, Pétain, qui s'est ensuite discrédité avec Vichy. Tous ces qualificatifs sont plus ou moins exacts, et je vous remercie d'être venus si nombreux pour justement essayer d'avoir une autre vision. Alors pourquoi le coup de poignard dans le dos? Pourquoi les Italiens nous attaquent? Mussolini, à cette époque, il est au fait de sa gloire. On a pu dire que s'il était décédé en 1935-36, ça aurait été un héros, un grand homme. Et comme beaucoup d'Italiens, il est très déçu par le traité de Versailles, parce que l'Italie a été, dans cette histoire, laissée pour compte. Effectivement, à cette période, l'Italie est ruinée. La guerre de 14-18 lui a fait 650 000 tués, rien qu'en dans l'armée. Presque 1 million de blessés, 600 000 disparus ou prisonniers. Les dettes de guerre sont énormes, elles ne seront soldées qu'en 1970. Les caisses sont vides, la lire a été dévaluée plusieurs fois, l'inflation à cette époque est en Italie de 450%. Le président Wilson, au nom de la liberté des peuples, a décidé d'eux-mêmes, etc., etc., a décrété que tout ce qu'on leur avait promis, Trieste, la Dalmatie, l'Albanie, c'est niette. Et en outre, la crise mondiale frappe l'Italie à deux reprises à ce moment-là, en 20 et 21, puis en 1929, comme tout le monde. Dans ce panorama, la conquête de l'Éthiopie serait quelque chose de florissant pour l'Italie. Malheureusement, c'est une campagne extrêmement ruineuse. Il en va de même aussi lorsque Mussolini entreprend d'aider Franco pendant la guerre d'Espagne, parce qu'il lui porte à domicile tout matériel de guerre, y compris ses meilleurs chars d'assaut, ses meilleurs avions, et il va laisser en grande partie tout ce matériel de guerre à Franco lorsque la guerre d'Espagne sera terminée. Et il fait tout ça parce qu'en fait, il espère, comme beaucoup d'autres dictateurs à cette époque, faire barrage au communisme, qui à l'époque est vu comme le grand méchant loup. Et ces deux conquêtes, l'Éthiopie puis la guerre d'Espagne, sont ruineuses pour l'Italie. Alors en plus, nous on n'est pas très très fiers parce qu'au même moment, lorsque Hitler fait mine d'envahir l'Autriche et qu'il fait assassiner le chancelier Dollfuss, eh bien il n'y a que Mussolini qui arme ses divisions et qui monte au col du Brenner pour montrer les gros bras. La France le laisse royalement tomber à ce moment-là. Alors pourquoi nous avons construit la ligne Maginot? Eh bien, la plupart d'entre vous ne le savent pas. D'abord, on a un phénomène de classe creuse après la guerre de 14-18, c'est-à-dire que 20 ans plus tard, eh bien, tous ces hommes qui sont morts à la guerre ne sont plus là pour faire des enfants, et donc on a beaucoup moins de soldats qu'auparavant. Alors qu'en face, l'Allemagne est restée forte. Je vous rappelle qu'en 14-18, l'Allemagne n'a quasiment pas de destruction sur son territoire à elle. C'est pour cela qu'en 1925, une série d'hommes politiques, comme Philippe Pétain, qui à l'époque est à son apogée, Paul Painlevé et André Maginot, on va y revenir, décident de lancer un programme de défense des frontières par une fortification. Alors André Maginot, il faut en dire quelques mots, mais peut-être certains d'entre vous en parleront beaucoup mieux que moi. Et c'est un simple soldat ou peut-être un sous-officier pendant la guerre de 14-18. Il est d'ailleurs blessé. Il écrira d'ailleurs un très beau livre, Carnet de patrouille. Et c'est un homme qui est touché, scandalisé peut-être par l'énorme boucherie de 14-18. Et donc il est parmi les premiers à dire le fameux « plus jamais ça » pour nos enfants. Et donc, comme par ailleurs il exerce une carrière politique, il devient ministre sous Paul Painlevé, il est le premier à promouvoir cette construction de fortifications dans l'espoir que ça permettra à la France d'éviter une nouvelle guerre épouvantable. En même temps, à cette période, Mussolini fait des discours de plus en plus revendicatifs. Nizza, vous connaissez le fameux Nizza, moi en tant que niçois, je l'ai souvent entendu parler, Nizza, Savoia, Hanoï. Et même il revendique la Corse, ça encore ça serait rien, mais même Djibouti, et puis la Tunisie. Il faut savoir qu'à cette époque, tous les empires, disons les républiques ou les occidentaux, se sont déjà taillés un empire colonial énorme. La Tunisie, au point de vue de l'empire français, est la dernière à être entrée dans le giron. Et effectivement, Mussolini se dit « Pourquoi nous, Italiens, nous n'avons rien eu de cet énorme gâteau ?» Donc il réussit à avoir l'Éthiopie et il aimerait bien qu'on lui donne la Tunisie. Alors, du fait de ce climat extrêmement préoccupant, le gouvernement français décide en 1928 la création d'un fort pilote qui va être choisi à Remplas, une petite localité des Alpes-Maritimes que j'aime beaucoup, où j'ai plusieurs amis. Et ce fort, donc, est construit de 1929 à 1939. En fait, il mettra quasiment 10 ans à être préparé. Et d'ailleurs, dans la construction de ce fort, sera impliqué un de nos parents, un des grands-pères de mon épouse. C'est un fort qui ressemble un petit peu au fort du siècle précédent, vous voyez, avec d'énormes murailles. Il est encore un petit peu entre deux par rapport à la génération des forts Maginot qui va suivre juste après. C'est le prototype. Voici une vue de ce fort, avec le petit village de Remplas à proximité. Pour ceux qui connaissent, là-haut, c'est la Boline Val-de-Blore et les pistes de ski de la Colniane. À cette époque, la frontière italienne passe juste au-dessus de la Boline Val-de-Blore, là, dans ce vallon. Alors, les choses vont aller très vite. En 1930, le gouvernement français vote une loi de 2,9 milliards de francs. Et on va se dépêcher. Alors je vous ai mis comme un clin d'œil un défilé des fameux Versaillais et Versaillais qui en fait avaient pour tradition de défiler en courant. Et c'est un corps d'élite qui a été créé plus ou moins vers 1860 environ. Alors, quelques mots sur le Front populaire et le réarmement. Parce qu'on a beaucoup dit que le Front populaire avait en fait négligé complètement le réarmement. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait, en même temps, il n'y avait pas encore l'ONU, mais il y avait la Société des Nations. Si De Gaulle l'avait su, il aurait pu prédire que c'était un machin, puisqu'elle ne va pas durer très longtemps. Mais en tout cas, il y avait aussi tout un courant pacifiste à l'époque, qui disait du fait de l'énorme boucherie, encore une fois, de 14-18, eh bien, essayons, mes amis, de ne pas s'armer à tout craint, comme on a tendance à le faire, et essayons plutôt de désarmer. Alors, donc, il y a eu effectivement des mouvements pacifistes à ce moment-là, on en reparlera, parce qu'il y a eu quelques sabotages, mais en même temps, donc, le Front populaire réarme, il vote notamment le plan des 14 milliards de francs. Alors, on a pu dire que c'était un gouffre financier, c'est vrai dans la mesure où on n'a pas arrêté les Allemands, mais c'est peu, un cinquième seulement, par rapport à toutes les autres dépenses militaires de cette période. C'est aussi à cette période qu'on construit la quatrième flotte du monde, dont on était extrêmement fiers. Donc vous savez ce qui est advenu. Alors la ligne Maginot en chiffres, c'est d'abord 2000 constructions fortifiées étirées sur 700 km. Environ 400 km donc Alsace-Lorraine, et puis 300 km le long des Alpes. Le long du Luxembourg et de la Belgique, on n'appelle pas ça la ligne Maginot, on appelait ça la fortification Camelot, parce qu'elle a été faite à la hâte, je vous expliquerai après dans quoi, elle a été faite à la hâte, elle n'avait pas du tout la qualité de la ligne Maginot. Et normalement, on n'avait pas le droit, entre guillemets, de construire une ligne fortifiée dans le dos des Belges, qui se disaient, mais alors vous voulez nous attaquer ou quoi? Voilà. Il y a dans cette ligne Maginot 45 grands ouvrages, des ouvrages d'artillerie, on va voir comment. Il y en a 22 dans le Nord et 23 dans les Alpes. Il y a 65 ouvrages d'infanterie, on appelle ça des petits ouvrages, il y en a 36 et 29. Et puis des casemates d'intervalle, des abris, des observatoires d'artillerie, 105 km de galeries, ça paraît pas beaucoup par rapport à des mines d'exploitation de minerais, hein. 12 millions de mètres cubes de terrassement, 1,5 million de tonnes de béton et 150 000 tonnes d'acier. Sachant que l'acier servait surtout à faire les fers à béton, d'une part, hein, de 1 ou 2 cm de diamètre, et puis les blindages des casemates, ça fait quand même beaucoup, 150 000 tonnes. Continuons les statistiques, comme ça après vous serez plus tranquille. Les canons, il y en a quand même pas mal. Alors, je vous laisse lire, mais je commente globalement. Vous avez globalement des canons fixes, ce qu'on appelle sous casemate, et des canons dans des tourelles. Alors, quand ils sont dans des tourelles, vous allez voir des photos, ils sont groupés par deux. De la sorte, il y en a un qui peut être plus ou moins incliné que l'autre, etc., pour encadrer l'objectif. Il y a toutes sortes de canons, des mortiers, vous le voyez, des lances, ce qu'on appelle les lances-bombes, des jumelages de mitrailleuses, et puis, surtout, des canons anti-chars. Ça, c'est la grande innovation de l'époque, hein, ça vient de sortir. Et les canons anti-chars font 47 ou bien 37 mm de calibre. Sur cette diapo, vous voyez une carte de visite d'André Maginot. Je n'étais pas né à l'époque, bien sûr, hein, mais voilà, c'est un des témoignages que j'ai trouvé de son écriture. Alors, les objectifs de la ligne Maginot, c'est d'abord assurer une barrière infranchissable. Tenir bon le temps que la mobilisation des régiments des réservistes se finisse derrière. Alors, les deux gros inconvénients que vous connaissez, c'est qu'on n'a pas barré les Ardennes, au motif que l'état-major estimait que les monts des Ardennes étaient impénétrables aux blindés allemands. Et puis, on n'a pas fortifié le long de la Belgique, je vous en parlais, parce qu'elle était neutre. Alors, au début, elle était notre alliée, et puis aux environs de 1938, peut-être, elle devient neutre, et de ce fait, tous les plans d'alliance qu'on avait conçus en tant qu'avec un allié se sont annulés, et donc on est intervenu, mais on a volé à leur secours, mais dans le désordre total ou presque, et ça a été, vous le savez, un fiasco. Dans la partie alpine, la ligne Maginot donc, est constituée de 4 ou 5 secteurs particulièrement fortifiés et puis des intervalles. Donc la ligne Maginot, elle est ici en violet. Elle part de Menton. Alors en fait, il y a même quelques fortifications Maginot en Corse. Il n'y en a que 4. Elles n'ont pas servi puisque les Italiens n'ont pas tenté un débarquement à cette époque. Elle part de Menton, elle passe par Turini, tout le long de l'Argentera Mercantour. En fait, la frontière à cette époque était beaucoup plus proche qu'aujourd'hui. Effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont confisqué, entre guillemets, à l'Italie d'importants territoires montagneux, ici. Et en outre, il y a eu un phénomène de rattachement de la vallée de la Roya, avec les rattachements de Tende, Breil, Saorge, etc., dont vous avez sans doute entendu parler. Elle a également des fortifications importantes à Restefond, col de Restefond, col de la Bonnette. Ensuite, il faut aller voir du côté de Briançon pour retrouver une ligne de fort quasiment continue. Et puis également, les abords du Mont-Cenis sont barrés à partir de Modane par une série de fortifications très importantes. Les Italiens en face ont également construit des fortifications, mais en général, elles sont de beaucoup moins bonne qualité, on va le voir. Alors, les forces en présence et les pertes. C'est un tableau saisissant. En effet, côté français, on a engagé seulement 85 000 hommes, on a eu 40 tués. C'est toujours trop, mais... Et côté italien, on a engagé 300 000 hommes et il y a eu 6 000 tués. Tués ou disparus, et surtout des gelés, des cas de gelure, on va y revenir. Surtout les médecins vont apprécier. Voilà. Et effectivement, pendant l'offensive italienne, il y a eu des nuits jusqu'à moins 20 degrés. Alors, le Vallo Alpino, du côté italien, comporte très peu d'artillerie. Ici, vous voyez, c'est un barrage anti-char, dans le nord de l'Italie. Ici, c'est le fameux Chaberton, le fort du Chaberton, à 3130 mètres d'altitude, pendant l'hiver, et à l'époque de sa splendeur, bien sûr. Et voici, il a été construit aux environs de 1880, et voici un des canons de 149 mm de diamètre qui a été monté. Il y avait en tout 8 canons. Il y a également des canons de type Armstrong, toujours de 149. Hein. Alors c'est amusant parce que chaque pays, chaque armée, essaye de faire un calibre de munitions que si jamais ils sont obligés d'abandonner des pièces d'artillerie ou des obus, les ennemis ne puissent pas s'en servir avec les leurs. Bon. Donc là, c'est dans la région du lac de Côme, mais on avait les mêmes, mais qui ont été démantelés au bord du lac du Mont-Cenis. Et puis donc le Vallo Alpino, c'est surtout des casemates très précaires d'infanterie, dispersées dans la montagne, souvent dans des paysages de toute beauté, et où on ne rencontre aujourd'hui que des sacs de ciment abandonnés, qui se sont solidifiés sur place, et quelques bouquetins. C'est aussi des fortifications en trompe-l'œil, vous en voyez ici du côté de la Vallée des Merveilles, d'un près de Tende. Vous voyez, en fait, sur un filet, on a projeté du béton pour faire croire à un rocher. Et là, également, dans la région de Tende, des fortifications en plein rocher. Mais armées uniquement, quasiment, de mitrailleuses. Alors, la stratégie et l'armement de la ligne Maginot ont été assez révolutionnaires pour l'époque. Et c'est la notion, par rapport à la frontière que vous voyez là à droite, c'est la notion d'un front perméable de 5 km de profondeur. En première ligne, en cas d'invasion, nous avons des avant-postes et les SES, c'est-à-dire les sections d'éclaireurs skieurs. C'est des troupes d'élite. Ensuite, il y a des petits ouvrages, équipés seulement de mitrailleuses, des ouvrages d'infanterie. Il y a des troupes d'intervalle. Alors ça, c'est un petit peu l'inconvénient, parce que du coup, il faut effectivement ponctionner des troupes sur d'autres fronts, pour les faire venir là, ou en tout cas les maintenir, des observatoires, et puis la ligne de résistance qui est là, en noir, ainsi dénommée, parce que, théoriquement, les ennemis ne doivent pas pouvoir la franchir, ils doivent être exterminés auparavant, par soit tous les barrages précédents, soit des gros ouvrages d'artillerie qui sont là, ainsi que des batteries d'artillerie, soit d'artillerie lourde mobile, soit même, mais il y en a eu très peu, vous verrez, des pièces sur voie ferrée. Et alors, donc, cette stratégie, comme conséquence, va s'articuler sur des blocs de tir d'action frontale, on va le voir, et des blocs qu'on a dit défilés pour les fameux tirs dépouillage. Alors, un autre grand principe de la ligne Maginot par rapport aux fortifications du siècle précédent, c'est que tout est souterrain, sauf les blocs de tir. Ici, c'est le fort de Castillon, près de Sospel, entre Sospel et Menton. L'entrée se trouve ici, au niveau de la tache rouge. Et vous voyez les blocs de tir qui se répartissent dans la pente sur une soixantaine de mètres de dénivelé. Tout le reste est souterrain à partir de l'entrée qui est là. Vous allez voir, tout est souterrain. Alors, le mythe qui s'est développé énormément, et d'ailleurs la propagande militaire française a beaucoup joué dessus au début, c'est de faire croire qu'en fait, il y avait des souterrains d'un seul bloc sur 400 km de long, et on pouvait entrer au sud et sortir au nord. Non, ça n'était quand même pas à ce point-là. Autre particularité, c'est la résistance du béton. On a sur les endroits les plus vulnérables, on a une épaisseur de béton de 3,50 m et également un ferraillage avec des fers à béton qui sont de 80 kg d'acier par mètre cube de béton, alors qu'à l'époque, dans le BTP civil, le ferraillage n'est que seulement de 25 kg d'acier par mètre cube de béton. Donc c'est trois fois la protection de ce qu'on a dans le civil. Ils avaient calculé, les ingénieurs du génie avaient calculé que de la sorte, on pouvait résister à la plupart des bombes qui existaient à l'époque, de 500 kg et plus, ou aux obus, comme les obus des canons tchèques Skoda, de 42 cm de diamètre, dont vous avez quelques exemples, qui pesaient une tonne chacun. Et effectivement, pas tellement dans les Alpes, puisque nos fortifications ont à peine été égratignées, mais en Lorraine, où elles ont bien trinqué, on a eu effectivement trois fois de suite, par exemple, plusieurs fois, des bombes de 1000 kg qui sont tombées au même endroit, et ça a à peine entamé le béton. C'était une belle prouesse technique pour l'époque. Il y a également énormément de fossés, à la fois de fossés anti-chars, et puis de barrières continues de rails anti-chars. Certaines subsistent encore aujourd'hui. Alors, comment on accède dans ces souterrains ? Eh bien, dans les Alpes, il y a un dispositif différent de celui de la Lorraine ou de l'Alsace. On appelle ça les entrées mixtes, c'est-à-dire que c'est par le même bloc en béton qu'on va pénétrer aussi bien les engins, et même des petits camions, que la troupe. Et donc là, vous voyez au-dessus de Sospel, l'une de ces entrées, avec chance, une chenillette Renault UE qui est en train de passer. Alors, c'était des chenillettes, non pas UE, ça ne veut pas dire l'Union Européenne du tout. C'était une marque, comme on dirait aujourd'hui, R12. Bon. Et cette branche de Renault va devenir ensuite la branche qui construira les chars AMX. Et donc, c'était des chenillettes qui avaient une autonomie de 100 km. Elle pesait 2,6 tonnes, un petit peu d'ailleurs comme on va le voir les tankettes italiennes. Et elles avaient 9 mm de blindage, c'est pas grand-chose. Hein. Et donc 30 chevaux. Ça permettait surtout d'apporter les caisses de munitions aux endroits où on en avait besoin rapidement. Et donc, comme je vous disais, l'entrée est de type différent en Lorraine ou en Alsace. Ce sont des entrées beaucoup plus grandes, avec une entrée séparée, une pour le personnel, qu'on verra pas là, et puis une pour le matériel. Et donc, il y avait des trains qui pouvaient approcher l'ouvrage pour ensuite transférer à l'intérieur le matériel. Donc, voilà une entrée lorraine à Schönenburg, près de Haguenau. Et puis donc, comme je disais, le matériel était déchargé et transféré sur des locotracteurs électriques qui ensuite répartissaient les caisses de munitions, etc., à l'intérieur de l'ouvrage fortifié. Petite particularité amusante, c'est l'entrée neige. Lorsque les ouvrages sont trop recouverts de neige, on entre par le haut. Alors là, ça n'est que des piétons qui rentrent par le haut et qui se glissent ensuite au moyen d'échelles jusqu'à l'entrée réglementaire. Il y a également des téléphériques, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 3 ou 4 dans les Alpes. Et puis alors le grand principe pour terminer les généralités, c'est le fort palmé, c'était le mot d'un général d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a les entrées d'un côté, 1 ou 2 kilomètres plus loin, on a les blocs de combat, entre les deux, une galerie de communication, voilà l'entrée, ce que ça peut donner en surface, les blocs de combat, ce que ça peut donner, et à part cela, il n'y a rien qui émerge à la surface, il n'y a rien qui offre prise au bombardement de l'artillerie ennemie ou de l'aviation ennemie. Donc à l'intérieur, pour les grands ouvrages bien sûr, on se déplace en locotracteur, 600 volts, 5 tonnes, de 19 à 42 chevaux. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 forts qui en sont encore équipés. À la fin de la conférence, bien sûr, ceux qui le souhaiteront, je vous indiquerai les endroits à visiter. Certains ont déjà visité Sainte-Agnès, ce qui est un des plus beaux forts. Alstom. Et donc un dédale ensuite de galeries qui dessert les différentes parties, soit les zones de vie, on va voir, soit les blocs de combat. Attention, porte toujours fermée, c'est en cas d'attaque au gaz de combat. Ça ne sera pas le cas finalement, il n'y aura pas de... Voilà. Et donc des dédales de galeries. C'est très agréable de visiter ces forts-là. Alors parfois, les murailles sont faites en pierre de taille, comme vous le voyez ici, ça c'est en Lorraine, mais ça n'était pas le cas général, loin de là. La portée des canons qui sont installés, ben vous le voyez, j'entre pas dans le détail, mais vous voyez, c'est quand même raisonnable, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, c'est 12 km. Effectivement, c'était pour ne pas trop vexer le pays frontalier, ça paraît risible aujourd'hui, ça l'est moins néanmoins parce que l'histoire se répète, et donc beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque, qui nous paraissent risibles aujourd'hui, aujourd'hui nous les vivons, sans nous rendre compte parfois de la portée de ces événements, et il y a des choses très bizarres qui se passent et qui peut-être, si on n'y prenait pas garde, seraient les prémices de nouvelles catastrophes. Donc c'est des canons qui ne vont pas très loin, qui ne portent pas très loin, et qui, pour l'essentiel, se couvrent les uns les autres. Vous voyez effectivement, il y a le rayon d'action de chaque pièce d'artillerie à partir des différents ouvrages qui est indiqué, puisque vous avez, je me lève pour montrer, vous avez une casemate. Vous avez une casemate avec une certaine embrasure, et donc votre canon, vous pouvez le diriger soit sur vous, madame, soit sur vous, monsieur, mais il ne pourra pas tirer si quelqu'un se présente là à la porte. Voilà. Donc c'est le principe des casemates. Et donc, on le sait, par construction des fenêtres de tir, quoi, des créneaux de tir, on ne peut tirer que suivant une certaine couverture de degrés. Alors, il y a quelques blocs qui, eux, vont tirer droit sur l'ennemi. On appelle ça des blocs d'action frontale. Ils sont équipés de canons de 75 mm. Ils sont rarissimes. En Lorraine, on n'en connaît quasiment pas. Et dans les Alpes, il n'y en a que trois. Col de Restefond, Cap Martin, et puis l'ouvrage de Saint-Roch à Sospel. Ils tirent donc directement sur l'assaillant éventuel. On appelle ça d'ailleurs des tirs d'interdiction ou des tirs d'arrêt. Non, vous ne passerez pas. On vous fait comprendre que non, ce n'est pas la peine d'insister. Et puis, il y a la grande majorité des tirs de flanquement, ce qu'on a appelé aussi tir dépouillage. Alors, rien à voir avec les singes, mais c'est du fait que les carapaces, les toitures des blocs de combat ont 3,50 m d'épaisseur, on peut se permettre le luxe d'envoyer dessus soit des obus de mortier de 80 mm, soit du 75 mm, parce que le béton ne sera pas entamé. Et la guerre est horrible. C'est malheureusement les fantassins qui vont, eux, être complètement éliminés, donc épouillés de la sorte, si par hasard ils avaient réussi à avancer suffisamment près pour menacer cet ouvrage-là. Voilà. Et donc tous les ouvrages Maginot sont construits pour tirer en flanquement les uns des autres, c'est-à-dire pour s'épouiller mutuellement, si jamais l'ennemi arrive au contact. Alors vous voyez, effectivement, ça donne des blocs de tir échelonnés sur le côté, comme cela. Ici, c'est Sainte-Agnès, justement. Le Horvald. Ils ont baptisé les canons Liliane et Christiane, ici. Le Monte Grosso, au-dessus de Sospel, il a gardé son nom niçois, Nissar. Ça veut dire le Mont Gros. Et puis alors, la grande nouveauté, c'est les tourelles. Des tourelles éclipsables, donc elles montent et puis elles descendent à volonté. Le poids est considérable, de 97 à 265 tonnes, la tourelle, selon les modèles. Elles sont en acier, alors qu'auparavant, vous avez entendu parler notamment dans la région de Verdun, il y en avait, mais qui étaient en fonte dure. Elles sont en acier. Alors, le grand avantage de ces tourelles, c'est qu'elles arrosent. Vous voyez, le rayon d'action d'une tourelle, par exemple, ça doit être la tourelle de, c'est la tourelle du Montagel. Elle arrose, vous voyez, largement le territoire italien. Voilà Menton, voilà la frontière. Elle arrose largement le Cap Mortola, etc. Donc, tout ça, c'était un petit peu hypocrite, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des tirs de flanquement. Vous les voyez très bien les uns les autres, qui se protègent, les forts se protègent les uns les autres. Et puis, je vous ai parlé aussi des tirs d'action frontale. Ben voilà, le seul exemple de ce secteur, c'est Cap Martin, qui lui tire directement sur Menton et même un peu au-delà de la frontière. Il va donc protéger l'avant-poste du pont Saint-Louis, vous verrez tout à l'heure. Et puis alors, ni vu ni connu, moi j'ai des tourelles aussi qui vont permettre par contre d'arroser large et de ne pas être repéré par les pacifistes ou par la Société des Nations. Je schématise à peine, mais il y a un petit peu de ça. Alors ces tourelles, c'est une des merveilles de technologie. Le principe, vous le voyez, c'est sur 3 étages, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de mètres de profondeur. Vous avez d'une part l'approvisionnement, alors les munitions arrivent par ascenseur, de plus bas encore, hein, puisque globalement, je vous ai parlé de 50 mètres de profondeur pour les zones de vie et de stockage des ouvrages par rapport à la surface. Les munitions donc arrivent ici, elles sont chargées, etc. Vous avez un mouvement de balancier, on voit un balancier ici de face, qui permet de monter et descendre la tourelle. Rez-de-chaussée, premier étage, c'est les organes de pointage, en direction et en hauteur de la tourelle d'une part, et puis des canons. Et puis, deuxième étage, les canons proprement dit, qui sont, on va le voir, donc des jumelages de canons. Alors voilà le balancier dont je vous parlais. Il est actionné électriquement, mais on peut également, en cas de panne électrique, le faire à la main. Voici un aperçu du vérin qui fait monter ou descendre le poste de tir de la tourelle. Voici notre vue. Et là, une très belle photo, parce qu'on voit, on est au rez-de-chaussée, et on voit le premier étage, avec cette nacelle, par exemple, à l'intérieur de laquelle le pointeur va s'asseoir. Et tout en haut, le terminus de l'échelle, on aperçoit le canon, un des deux canons. On va avoir une vue plus rapprochée. Alors voici le poste de pointage, au premier étage. Donc là, il y a 3-4 modèles différents de tourelles. Donc je passe sur les détails, d'abord je ne les connais pas par cœur. Voici un autre modèle, toujours du poste de pointage, avec les organes d'élévation en direction, en hauteur des canons. Et puis on aperçoit là, par l'ouverture, donc un des deux canons. On va voir dans une partie musée comment ils se présentent. Alors, quand on est à l'intérieur du poste de tir, il n'y a pas beaucoup de place. Donc les photos de ces postes de tir sont assez rares. Ça, c'est pas moi qui l'ai faite d'ailleurs. Et vous voyez ici, une fois qu'on a passé la tête par la trappe, vous voyez ici les deux canons, 1 et 2, les organes de pointage, de hausse, etc., les ressorts pour l'amortissement du tir, et c'est à peu près tout ce qu'on arrive à voir. Alors théoriquement, on devrait porter des masques lorsque on charge les obus dans ces canons, parce que naturellement, d'une part, il y a des gaz toxiques, et d'autre part, ça contredit un petit peu l'usage des masques, mais il fait très chaud. Voici une autre vue d'un jumelage de tourelles, avec la lunette de visée au centre, et toujours à proximité, on a des canons de rechange, parce que comme ils tirent à des cadences parfois de 20 obus à la minute, il peut y en avoir un qui éclate. Alors voici, dans une partie musée de l'ouvrage de Schoenenburg, un des canons donc de 75, c'est-à-dire 7,50 cm de diamètre de l'obus, avec la fameuse culasse Nordenfeld qui s'ouvre et se ferme en un tournement. C'était une des grandes innovations du canon de 75 en 14-18 déjà. Et puis la chaîne donc qui permet de pointer en hauteur. Des magasins pour stocker les obus à proximité des canons, mais il y a d'autres magasins, on les verra plus tard. Alors, mis à part les canons de 75 qui sont les plus fréquents, on a parfois ce qu'on appelle des armes mixtes. Ce sont des canons, mais il y a une partie canon anti-char de 25 mm, de diamètre, hein, j'étais toujours au diamètre, hein, on parle de dimension, et une partie mitrailleuse. Et donc il y a eu aussi des tourelles avec 2 mitrailleuses ou avec 2 armes mixtes. Il y a aussi des tourelles avec des mortiers. Donc le mortier est présent par rapport à un canon normal. Certains d'entre vous ont quand même cette notion, le fait qu'il fait des tirs courbes. Donc ça permet d'aller débusquer quelqu'un qui s'était caché, par exemple, derrière une colline ou derrière une montagne. Donc là, c'est au musée de Fermont que je vous recommande aussi, en Lorraine. Alors là, vous voyez 2 mortiers à l'intérieur. On est au-dessus de la tourelle, bien sûr, la tourelle, son couvercle a été enlevé. Et donc on regarde l'intérieur. Vous voyez un premier canon de mortier, un deuxième canon, et là, les quatre tubes, c'est les freins de recul. C'est les ressorts, enfin, les ressorts à l'huile pour le recul, pour amortir le recul. Alors, c'est toujours effectivement amusant pour un petit enfant d'essayer d'échapper à l'œil perspicace de la tourelle qui tourne en même temps qu'elle. Bon. Une autre particularité, les cloches cuirassées, guetteurs, fusils mitrailleurs, GFM, VDP, vision directe et périscopique. Ces cloches, comment ça se présente? C'est un petit peu comme un iceberg. Hein. Il y a une partie en acier qui dépasse, mais en fait, il y a tout un enracinement en profondeur, sur, vous voyez, parfois 2 mètres, parfois davantage, jusqu'au souterrain. Et donc, on hisse. Le guetteur se fait hisser par une crémaillère, vous voyez, on voit très bien de l'intérieur ici, où on peut monter aussi à l'échelle. Là, on est à la partie supérieure, il y a même une tablette où on peut poser les caisses à obus, etc. Ou les caisses pour les mitrailleuses. Il y a des cloches qui sont équipées, mais c'est très rare, d'un canon de mortier de 50 mm, on le voit là. Mais la particularité très fréquente, c'est dans les sous-marins, les périscopes, merci. Donc celui-là a disparu, mais on en voit un ici, là il est occulté. Et ces périscopes sont évidemment très précieux pour que le guetteur ne soit pas blessé par un tir tendu, on va voir. Ici aussi, vous voyez des cloches avec un périscope. Là, c'est une tourelle, là, une tourelle abaissée. Et là, c'est ce qu'on appelle sur le côté, on appelle ça un épiscope. Ça sert aussi pour regarder sans risquer de prendre une balle perdue directement dans le visage. Alors à l'intérieur des cloches, parfois, et même assez souvent, un artiste militaire a peint tout le paysage, et vous voyez, ça permet de se repérer en azimut, en direction, par rapport au tir que l'on veut faire. Par exemple ici, vous voyez, sur cette cloche-là, on aperçoit cette église, ce clocher, c'est celui-là. Voilà. C'est des œuvres d'art anonymes qui font partie des fresques de la ligne Maginot. Alors parfois, il y a des cloches qui malheureusement sont prises à partie par l'ennemi, et dans ces cas-là, ça s'est en général très mal passé. C'est effectivement les actions de canons anti-chars allemands, ici on a un pack de 77 mm allemands, qui, ces canons anti-chars, envoient donc des obus dans les cloches. Alors ça ne fait pas seulement clonk quand la cloche reçoit un obus comme ça, mais en plus, les fragments de métal qui réussissent à pénétrer sont autant de shrapnel qui blessent mortellement les servants de la cloche. Il existe des fausses cloches, à même place, en trompe-l'œil en quelque sorte. Les cloches Pamard, je les aime beaucoup parce que c'est des cloches assez impressionnantes, on dirait des monstres. Je n'en dis pas plus, il y en avait très peu d'exemplaires, il n'y en a eu que 3 exemplaires dans la ligne Maginot. C'était en fait une cloche qui était plus répandue dans la guerre de 14-18. Dans la région de Lubaye. Celle-ci, on dirait vraiment un monstre préhistorique. Ce n'est pas les géologues qui vont me contredire. Alors, ces cloches sont souvent équipées de jumelages de mitrailleuses, on le voit ici, de 7,5 mm. À l'intérieur de la casemate, donc le servant de la mitrailleuse s'arc-boute sur ce guide-là qui est là. Alors, les mitrailleuses du général ou du colonel Reibel, qui les a inventées, ne comportaient pas une bande de balles, hein, comme vous voyez souvent dans les mitrailleuses. Là, c'était ce qu'ils appelaient les chargeurs camembert. Je ne sais plus, 300 cartouches peut-être dans le chargeur camembert. Enfin, il est vrai que ça filait très très vite, hein, il fallait les remplacer souvent. Alors aussi, dans ces casemates où il y a une mitrailleuse, une double mitrailleuse, il y a parfois un rail auquel est accroché un canon anti-char. Et là, c'est le cas ici. Et le canon anti-char était amené, en cas de besoin, par la fenêtre de tir qui est là. On ouvrait la fenêtre de tir, on enlevait la mitrailleuse qui pivotait sur le côté, et à la place, on avançait le canon anti-char pour boucher le trou. Et pour envoyer donc un pruneau à l'ennemi d'un calibre évidemment autre, puisque c'était soit du 37, soit du 47 mm, donc sur l'ennemi. Alors la portée était, la portée efficace, disons, était de 1 km environ, et ça perçait un blindage d'une dizaine de centimètres à 1 km. Donc réciproquement, les Allemands aussi perçaient nos cloches, évidemment, avec leurs antichars. À l'extérieur. Alors, l'obus antichar,
je vous en
fait circuler un. Ils sont absolument neutralisés, je vous rassure tout de suite.
Alors ça a la particularité, vous verrez, qu'il se dévisse. Donc ça c'est la douille qui transporte évidemment la charge de poudre, hein, pour la propulsion du projectile. Et l'obus se dévisse. Bon, j'y arriverai pas, mais tant pis. Et donc la particularité, c'était qu'il y a une coiffe, parfois en acier, parfois même en magnésium. Elle permettait, le magnésium fondé sous le tir, et permettait de repérer l'efficacité du tir à distance. Et à l'intérieur, vous avez l'obus proprement dit, qui ensuite va achever de pénétrer dans le blindage qu'on a voulu évidemment transpercer. Alors, ces munitions n'agissaient que par pénétration, on appelle ça rupture, hein. Il n'y avait pas de charge explosive dedans, c'est que de l'acier. Il n'y a pas d'explosif, il n'y a jamais eu d'explosif dans ces parties-là. Vers la fin de la guerre, il y en a eu, mais c'est une autre histoire. Voilà, je vous le fais passer. Ne prenez pas sur le pied. Du fait qu'il n'y a plus la poudre dedans, évidemment, ils sont plus légers. Voilà, alors il existe aussi, voilà c'est ça, c'est la suite logique, il existe aussi des créneaux qu'on a peints, alors on devrait les compter dans les fresques, ceux-là aussi, hein, des faux créneaux d'embrasure de tir. Je ne sais pas si ça faisait illusion pour l'ennemi, il faut croire qu'ils avaient vraiment mauvaise vue dans leurs jumelles. Alors très rapidement, quelques autres modèles de canons à part l'antichar. Ben, le 135 mm, donc 13 cm de diamètre, je n'en ai pas d'obus à faire circuler. Il avait une portée de 6 km. En voici quelques exemples. Ceux qui sont déjà allés au fort de Sainte-Agnès les reconnaissent. Ils sont de toute beauté. Il y en a très peu relativement dans les Maginot, tout au moins dans cet état de conservation. Voilà l'allure qu'avaient ces obus. À gauche, on y reviendra, c'est un dispositif pour balancer des grenades à l'extérieur. Voilà toujours le lance-bombe de 135. Voilà une vue détaillée de la culasse. On aperçoit la clarté du jour qui pénètre par le canon. La culasse étant ouverte. Et à l'extérieur, donc, ces embrasures étaient parfaitement occultées. Dès que le canon avait fait son tir, il disparaissait, il s'escamotait pour ne pas être exposé à des tirs de riposte des ennemis. Alors voilà une vue détaillée de le lance-grenade, qui permettait donc subrepticement, on pourrait dire, de balancer une grenade à l'extérieur de la casemate, qui tombait, bien sûr, dans le fossé diamant ou à côté, et qui explosait à la figure des assaillants s'ils s'en étaient trouvés à cet endroit malencontreusement. Et on appelait ça fossé diamant parce qu'il y avait également des douilles qui tombaient là-dedans. Un autre type de canon, c'est le fameux canon de 75. Les Français sont toujours très fiers de leur canon de 75. Ça date de la guerre de 14-18. C'est vrai qu'on a amélioré. Donc celui-ci faisait 12 km de portée. En voici quelques exemplaires. Et les obus. Alors là aussi, je vais vous le faire passer. Donc voilà, je vous le fais passer en deux morceaux parce qu'il est, sinon il serait trop lourd. Donc là, il y a la douille qui reste évidemment dans la casemate, c'est juste pour la propulsion. Et voilà l'obus proprement dit, qui est parfaitement vide aussi, avec au sommet une fusée, qui est neutralisée aussi, qui permettait, c'est des détails sordides, hein, mais bon, les hommes ont toujours inventé des choses extraordinaires pour s'entretuer, et puis après, c'est les médecins militaires qui, heureusement, font souvent des miracles, hein, ça a commencé avec la grande armée de Napoléon. Et donc la fusée au sommet de l'obus, c'était un dispositif qui permettait, c'est donc sournois, de faire exploser l'obus soit lorsqu'il touchait le sol, paf, soit lorsqu'il avait pénétré à l'intérieur de blindage. C'était le cas dans les batailles navales, hein, pour pénétrer la cuirasse du cuirassé et aller faire les dégâts à l'intérieur du cuirassé. Ou alors au contraire, d'autres fusées étaient réglées pour n'exploser qu'à la cime des arbres, de façon à faire le plus grand nombre de tués dans l'infanterie. Voilà.
Enfin, c'est comme ça. La guerre, c'est quelque chose d'horrible. C'est pour ça qu'on a des armées pour essayer de l'éviter, de l'empêcher.
Donc là, vous voyez un exemple de fusée. À l'intérieur de la fusée, ce qu'il y a. Et quelques obus de 75, principalement. Alors, ce canon de 75, il dépassait beaucoup de la casemate, ce qui fait qu'il était vulnérable. À l'intérieur, c'était tout à fait correct, mais à l'extérieur, il dépassait beaucoup. Là, c'est ce qu'on appelle, on en verra d'autres, un transmetteur des ordres, comme dans un bateau. Voilà. Alors, du fait que le canon dépassait beaucoup, on a inventé un autre type de canon en 1932. Vous voyez, tout ça s'est précipité. Rien que pour la ligne Maginot, qui, lui, ne dépassait quasiment pas. Il ne dépassait quasiment pas. Par contre, du fait qu'il ne pouvait pas tourner facilement par rapport à son axe, il y avait tout un système de contrepoids, on va voir rapidement, pour l'actionner. Alors, vous voyez, à l'extérieur, ça ne dépasse pas. Et là, dans cet exemplaire, ben, malheureusement, le volet de blindage de gauche, il est parti, parce que les ennemis se sont présentés, les ordres ont été lancés de tirer, et puis les blindages étaient encore en place, ben, le canonnier, il a tiré à travers le blindage, et donc un des volets est parti. Ça, c'est la lunette de visée. À l'intérieur, donc vous voyez une partie de ce mécanisme pour contrebalancer le canon très très court à l'extérieur. Et là, sur cet exemplaire, et ça vous illustre aussi la tristesse, disons, dans lequel certains ouvrages, la plupart des ouvrages sont tombés, c'est que les ferrailleurs ont fait leur travail. L'Ligne Maginot a été progressivement démilitarisée à partir de 1965. Voilà, et donc les ouvrages ont été petit à petit démantelés par les ferrailleurs. Voilà, à l'intérieur, donc là aussi les dispositifs de freinage du recul du canon. Vous voyez la lunette de visée ici, les crémaillères, les roues dentées qui permettent d'orienter le canon. Vous avez un obus dans la culasse ici, il est prêt à tirer. Voilà. Alors un autre type de canon, mais on va aller un peu plus vite peut-être, c'est donc un mortier qui tire à seulement 6 km, vous voyez. Vous en avez de très beaux exemplaires dans le fort de Sainte-Agnès aussi, pour ceux qui sont allés. Et ce mortier n'existe que dans les Alpes, parce que, justement, à cause du relief montagneux, il était important de pouvoir tirer derrière les collines. Un autre type de mortier, c'est le Stockbrand. Ne me prenez pas sur le pied, hein, voilà. Voilà, en entier. Avec les obus de mortier. Vous pourrez venir tout à l'heure, j'en ai un exemplaire, mais sans fusée. Voilà, et donc ce mortier se chargeait par la culasse, et on pouvait bien sûr le tourner latéralement. En surface, les points de sortie des obus de mortier sont parfaitement camouflés, vous le voyez, ils sont très, très peu vulnérables, pas grand-chose ne dépasse. Là, on est au-dessus de Sospel. Et puis, il y a eu des canons encore plus sophistiqués, mais dont on n'a pas conservé d'exemplaires, parce que lorsque les Italiens ont occupé à partir de 1942 la région, du fait que du débarquement en Afrique du Nord, les Allemands et les Italiens ont occupé la région, et donc ils ont emporté ces canons-là qui étaient les plus sophistiqués de la ligne Maginot. On n'en a que des plans. Ça, c'est une vue donc des soutes à munitions, avec l'armée a la gentillesse de produire encore quelques munitions pour décorer ces musées. Et là, une vue de la porte blindée d'une soute à munitions sur laquelle les Allemands ont fait un essai pour voir si ça pouvait résister. Ben oui, ça a été à peine voilée. Les postes de tir souterrains, donc, par où les ordres étaient lancés aux différents blocs de tir. Un ouvrage comportait de 50 jusqu'à 1000 hommes. Commandé, en général, l'échelon le plus élevé, c'était colonel, selon évidemment l'effectif. Et alors voilà les fameux transmetteurs d'ordre, carpentiers, comme on disait, qui sont similaires à ceux que l'on voit sur les bateaux pour transmettre l'ordre à la salle des machines. Poste téléphonique. Alors, pour actionner toute une forteresse de ce calibre, croisière costale, le mot n'est pas si mal approprié que cela, parce que, en fait, les troupes qui occupaient les ouvrages, on les appelait des équipages. Et effectivement, la vie en forteresse étant extrêmement morose, les gens avaient une certaine structure similaire à celle des bateaux de guerre. Alors là, c'est une entrée... c'est Sainte-Agnès, là aussi, vous reconnaissez Sainte-Agnès. Je suis très content que certains d'entre vous y soient allés. Là, c'est l'ouvrage du Pas du Roc, au-dessus de Modane. Alors, des kilomètres de souterrain, bien sûr, autour d'époque. Et puis donc, la zone de vie. La zone de vie, ça c'est Sainte-Agnès aussi, par rapport au bloc de combat. La zone de vie, vous voyez, était extrêmement étendue. On y accédait donc soit par le pont-levis, soit par les souterrains. Et alors à l'intérieur, l'organe essentiel, c'est l'usine. Alors une des expressions les plus intéressantes de ce panneau-là, c'est interdit à la troupe, réservé aux spécialistes. Parce qu'effectivement, il y avait là des moteurs électriques qui étaient d'importance vitale pour l'ensemble de la forteresse. Alors voici un aperçu des plus gros groupes électrogènes avec des moteurs diesel de 15 à 400 chevaux jusqu'à 1400 kVA. Je passe un peu parce que je suis géologue, hein, je suis pas doué pour changer une ampoule à la maison. Toujours les groupes électrogènes. Alors petit détail amusant, une partie a été construite à Orléans, à Saint-Jean-de-Bray. Le compound existe encore, mais l'usine a disparu. Je crois qu'il y a toujours une usine, mais malheureusement pas de groupe électrogène. Tout cet ensemble était refroidi, donc par eau. Vous voyez là une réserve de 200 000 litres, et vous apercevez sur cette vue l'extension dans les galeries. Dans des galeries latérales, l'extension de ces réserves d'eau ou de diesel ou d'huile de refroidissement. Les transformateurs, alors, ils pouvaient être alimentés soit par le réseau civil, 65 000 volts, mais aussi, donc, ils pouvaient être alimentés par les groupes électrogènes. Et donc, ils réceptionnaient le courant à 10 200 volts et ils le redistribuaient à 440 volts dans tout l'ouvrage. Et puis, il y avait des convertisseurs qui éventuellement redressait le courant pour alimenter notamment les tourelles, parce qu'une tourelle de 300 kg, il fallait un sacré moteur pour l'actionner, et donc beaucoup de force électrique. Et donc des kilomètres et des kilomètres de câblage électrique. C'est assez impressionnant, ça cette vue je crois bien est de Sainte-Agnès, où c'est de toute beauté. Alors bien entendu, ça fait la joie des ferrailleurs. La salle des filtres, c'était très important aussi. Vous savez, c'était aussi une des hantises de Hitler d'utiliser des gaz de combat. Et donc, l'Imaginot est équipé d'une salle de filtre. Ils n'ont jamais servi. Il n'y a qu'une fois, mais bon, on en parlera au niveau des discussions, à l'ouvrage du Carrefour, il y a eu un incendie. Et là, tout l'équipage est mort asphyxié, mais par le produit des incendies. Donc, voilà une vue de l'intérieur d'un filtre. Un cylindre a été ouvert, vous voyez, et on voit à l'intérieur les différentes couches de charbon actif et différents produits chimiques qui permettaient donc de filtrer l'air et ensuite de l'envoyer purifié dans les différentes parties de l'ouvrage. Les casernements. Alors les soldats mangeaient quasiment là où ils dormaient. Il n'y avait pas beaucoup de place quand même pour des équipages qui pouvaient monter à 1000, 1200 hommes. Il y avait évidemment une certaine promiscuité. Et donc la zone de lavage. Et puis alors évidemment, je vous laisse découvrir les fosses chimiques. Il y a toujours des expressions rigolotes. Sans brusquerie. Il est interdit de jeter des corps étrangers dans les fosses. Ben oui, évidemment. Voilà. Et passer à l'urinoir avant d'utiliser le siège, ben oui. Voilà. Les cuisines. Bouillon cube.
Et puis, bien sûr, dans une forteresse, donc, ce qui était important, c'était les munitions de tout type. Hein, donc, il y avait l'eau potable, et puis les obus et le vin. Voilà. Distribution, ce soir à 18h. Ah ben, c'est dommage, vous êtes ici. Enfin, puis vous reviendrez demain matin. La bière en Alsace. Et puis, bien sûr, le culte. La poste. C'était très important pendant la drôle de guerre, parce que pendant 7 mois, tous les forts étaient occupés et les gens y sont piquinés. Et alors, médecin apprécieront. Alors, il y avait très peu d'ouvrages où il y avait vraiment une salle de chirurgie, je dirais, dernier cri pour l'époque. Mais enfin, c'était quand même pas mal. C'était plus une infirmerie en général. Et puis, l'atelier de réparation. Alors, l'artillerie d'intervalle, très rapidement, ben, il y a des dinosaures. Ça, c'était le 155. Alors, 15 cm de diamètre quand même. Hein, qui tirait à 12 km. C'était des reliques de la guerre de 14-18, parfois même de la guerre de 1870, quasiment. Alors, voilà tous les calibres. Alors là, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on arrive à des portées importantes, les 44 km. Donc là, on pouvait se permettre d'arroser de l'autre côté de la frontière. Là, il n'y avait plus de retenue. Donc je passe rapidement. Ce qui est amusant sur cette photo, c'est que c'est dans un musée israélien que j'ai réussi à trouver, je ne sais pas que j'y sois allé, mais j'ai trouvé sur Internet, une photo du fameux 105 long de Schneider. D'autres exemplaires. Le fameux canon de 75, là, omniprésent, celui de l'infanterie, d'ailleurs, de Paris. Et puis alors, des canons longue portée, on appelait ça la grande portée FIU, GPF. Et puis également, donc cet autre dinosaure avec des cingolis, c'est-à-dire des patins, hein, c'est pas pour parier le parquet, c'est pour dans la neige, ça a une meilleure assise. Et il y en a eu, je crois, 250 exemplaires dans les Alpes et ils ont tout à fait rempli leur travail. Tout ceci était tracté principalement par des chevaux et il y avait également quelques batteries tractées par des camions Latil. L'artillerie lourde sur voie ferrée, ben dans les Alpes, il y a eu deux canons de 340 mm, donc 34 cm de diamètre, la Marne, basée à Modane, et le Verdun, à côté de Nice, à Payan. Et puis, il y avait aussi 9 pièces de 194 qui ont tiré 223 coups. Alors, la bataille pour Marseille et Nice, en quelques photos rapides. Mais l'Italie va entrer en guerre, en fait, de façon un petit peu précipitée, parce que les Allemands, eux, ils n'attendent pas et ils ont déjà beaucoup avancé. Alors, le 26 mai, je vous rappelle que la percée à Sedan, c'est le 10 mai. Le 26 mai, donc, Mussolini dit à ses maréchaux, « Hier, j'ai envoyé une lettre à Hitler pour l'assurer, je traduis vaguement, hein, que je ne vais pas rester les mains sur les hanches, et qu'à partir du 5 juin, je serai prêt à déclarer la guerre à l'Angleterre et à la France. » Alors Badoglio, d'après les témoins, éberlué, complètement consterné, lui a répondu « Votre Excellence connaît notre absolue impréparation. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de chars d'assaut, nous n'avons pas d'appareil aérien, ou très peu, je veux dire, et il nous manque même les chemises pour les soldats. » Une pause, et puis il a dit « C'est un suicide. » Alors malheureusement, Mussolini, comme on l'imagine, lui a répondu « Monsieur le Maréchal, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'êtes pas en mesure d'évaluer la situation. Je vous affirme qu'en septembre, tout sera fini. » On est en mai. Effectivement, il pense que les Allemands sont déjà, vous allez voir, presque à Paris. « Tout sera fini en septembre. Je n'ai besoin, alors ça c'est une phrase terrible, je n'ai besoin que de quelques milliers de morts pour m'asseoir à la table de la paix comme belligérant. » Et donc Badoglio et Ciano ont conclu, c'est un fou. Alors ça y est, la déclaration de guerre éclate le 10 juin 40. La parole est seulement l'ordre « vaincre et nous vaincrons ». Les dés sont jetés. C'est la lutte des peuples pauvres et nombreux de bras, excusez-moi de la mauvaise traduction, contre les affameurs. Roosevelt aura ce commentaire historique aussi. C'est donc le 10 juin que la main qui tenait le poignard l'a enfoncé dans le dos de son voisin. Alors les espérances italiennes, j'en ai touché déjà un mot, mais c'est d'obtenir, grâce à cette victoire rapide et facile, la Corse, Djibouti, Nice, la Savoie, peut-être même la flotte de Toulon, peut-être même Marseille carrément, et pourquoi pas la Tunisie, puisqu'après tout, les Français ne l'ont pas depuis bien longtemps. Et il semblerait qu'il y a même eu des tractations avec Paul Reynaud, en tout cas avec par ambassadeur interposé, pour effectivement, au moment de la débâcle française, commencer à négocier avec Mussolini une partie de ces territoires. Mais finalement, ça n'a évidemment pas abouti, vous le savez. Alors jusqu'au 20 juin, il n'y a que quelques escarmouches, parce que personne ne veut vraiment verser le sang. Seulement le 10 juin, la nouvelle tombe, le gouvernement français abandonne Paris. La ligne Maginot a été contournée et s'est effondrée. Paris est tombé. Le 19 juin, les Allemands menacent Grenoble et Annecy. Alors du coup, Mussolini se dit « mince, il faut quand même que j'y aille ». Donc il va le faire, mais néanmoins, Hitler ne veut pas accabler la France, puisque la France est en train de demander un armistice. Et donc il dit à Mussolini « l'Italie ne pourra occuper que les territoires qu'elle aura conquis elle-même par les armes ». Et en outre, l'armistice franco-allemand entrera en vigueur seulement quand l'armistice avec l'Italie aura été signé. Donc ça, c'est un petit peu des limites que Hitler met comme frontière, comme borne à Mussolini. Alors, les choses se précipitent dans les jours suivants. Le 15 juin, comme malgré tout, nous, on ne reste pas les bras croisés, une partie de la flotte de Toulon va bombarder Gênes et Vado-Ligure, bombarde les arsenaux militaires là-bas. Donc c'est une véritable honte pour Mussolini parce qu'il a une flotte qui passe pour la cinquième du monde et il est incapable de contrer cette canonnade qui n'a pas beaucoup de bons résultats d'ailleurs militaires. Au même moment, 17 juin, Pétain annonce « j'ai le cœur meurtri de vous dire qu'il faut cesser le combat et j'ai approché l'ennemi pour obtenir des conditions honorables de cessation des hostilités ». Alors le 18 juin, il y a l'appel de Gaulle le lendemain même, mais les choses vont très très vite. Et donc Mussolini se dit « mince, mais si je ne fais rien, le gâteau va me passer sous le nez ». Donc il ordonne le 19 juin d'attaquer. Offensive générale, je ne veux pas subir la honte que les Allemands occupent et puis nous rétrocèdent la région de Nice, le comté de Nice. Et attaquer coûte que coûte. Alors là aussi, le maréchal Badoglio essaye de transiger, mais malheureusement, il n'obtient pas raison et finalement les ordres sont donnés au prince Umberto qui est le commandant du groupe d'armée ouest, donc 300 000 hommes et 3 000 canons, attaqués à 3 heures du matin, attaqués à l'offensive générale. Et alors même un des adjoints de Mussolini, le général Mario Roatta, essaye de rassurer Graziani qui lui dit « on n'est pas prêt » et en lui disant « oh, il est possible qu'il y ait encore des troupes françaises dans les forts, mais l'essentiel, ils sont déjà en retraite complète, quoi. C'est la débâcle. Hein. » Voilà. Alors non, ben, c'est pas la débâcle, même si effectivement les meilleurs bataillons sont déjà partis pour essayer de bloquer les Allemands dans le nord, il y en a encore suffisamment qui défendent l'île Maginot. Alors, les généraux en présence, ben, on a la chance dans les Alpes d'en avoir de très bons. Ça n'a pas été le cas général en 40. Et alors, il y a surtout le général Ollery, et puis alors ses deux adjoints, c'est Alfred Montagne et Jean Maire. Général Montagne et général Maire, pour une bataille des Alpes, c'est quand même pas une coïncidence. Hein. La mer et la montagne réunissent. Les Italiens ont donc des troupes assez bien constituées aussi. Il ne faut surtout pas les diminuer, leur importance. Il y a les Alpini, c'est-à-dire les chasseurs alpins. Il y a les Bersaglières, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, d'une façon générale, les Fanti, c'est-à-dire l'infanterie. Et puis, la GAF, c'est-à-dire la Guarda alla Frontiera, qui connaissent parfaitement le terrain et qui, en plus, sont des gens, en général, de la région des Alpes. Les généraux qui ont participé au combat sont beaucoup moins connus, puisque malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour eux. Alors, dans tout ça, quelle est l'attitude de l'arrière? On demande toujours, et l'arrière, alors, est-ce que soutient l'esprit combattant des troupes? Alors là, vous avez une vue, en mai 40, de la plage de Nice, qui a encore la chance de se rengorger de son casino, qui sera détruit par les Allemands pour faire des barrières anti-chars en 44. Et bon, ben, mes parents m'ont raconté, hein, c'était quand même la décontraction à Nice, hein, ils n'y croyaient pas. Alors à ce moment-là, mon père, ce héros au sourire si doux, hein, qui est là, lui, il est chasseur alpin, il a été remobilisé là en 39, et il a été envoyé pour boucher le trou des Allemands dans le nord. Donc il est sur le front de l'Aisne, c'est miracle qu'il n'ait pas été tué. Mais en tout cas, là, on voit, il était chauffeur du commandant, faut dire. Alors donc, on voyait sur sa voiture la marmotte, qui est la mascotte des chasseurs alpins. Voilà, et la voiture, ben, on voit les dégâts qu'elle a subis lors d'un bombardement par l'aviation. Ma mère, vous n'en verrez pas de photo, parce qu'au même moment, elle est enceinte de ma sœur. Et du côté de mon actuelle belle-famille, il y a des bombardements italiens sur toutes les gares de triage, sur toutes les gares de la région. Et ma belle-mère, qui à ce moment-là a une dizaine d'années, elle est arrivée en France en même temps que son père, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a participé à la construction du fort de Rheinplatz, qui est tout à fait fiable, bien qu'il soit d'origine italienne. Eh bien, malgré tout, à l'école, quand il y a des bombardements italiens, on distribue les masques à gaz à tous les enfants, mais pas aux enfants d'origine italienne. Sympa. Alors, les trois premiers épisodes passent au Mont-Blanc, près du col de la Seigne, dans la vallée des Merveilles, ici le col de Ross, près de la cime du Diable, que l'on voit, et puis au col de Restefond. Et pourtant, la veille encore, il y avait des fraternisations. Le lendemain, les ordres sont tombés, et ça y est, on n'est plus copains. Donc, très rapidement, les combats de toute la région de l'Authion, donc vous voyez, distinguer le fort des trois communes, hein, la pointe des trois communes, ce fort va être à nouveau le théâtre de combats terribles, cette fois-ci contre les Allemands, en 44. Et là, les dégâts que vous voyez sur ce fort, qui date de 1880, hein, qui était incorporé dans les Maginot, mais plus ancien, date de 1944. Alors, les récits sont à peu près tous les mêmes, hein, le jour J, donc, les bataillons italiens se ruent sur l'école, et donc... ils sont quasiment massacrés sur place, hein, par l'artillerie française. Qui les attend tranquillement dans ces forteresses, hein. Alors, il y a quatre, je vous présenterai très rapidement quatre théâtres de combat. D'abord, pour contenir les Allemands sur le Rhône et sur l'Isère, c'était notamment la fameuse bataille de Voreppe. J'ai plein de photos, mais pour faire court, je n'en parlerai pas ce coup-ci. Je fais monter un petit peu la pression. Si ça vous a plu, je vous redemanderai. Deuxième combat aussi, j'en parle très peu, c'est Briançon et la fameuse affaire du fort de Chaberton. Alors le fort de Chaberton, c'est un fort italien, on l'appelait le cuirassé des nuages, 3130 mètres d'altitude. Je n'y suis pas encore monté, il ne faut pas croire, hein, parce que ça représente 1200 mètres de dénivelé, et malgré les compliments que tu m'as fait, Claude, je ne monte plus autant de dénivelé d'un seul coup. Voilà. Mais donc ce fort, vous voyez, il y a 8 tourelles au sommet, et il a été construit en 1880, et bien ça y est, le 17 juin, les ordres tombent, et à 17h35, les habitants de Briançon entendent boum, 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 des coups réguliers, c'est les 8 tourelles du Chaberton qui entrent en action. Alors heureusement, elles entrent en action surtout sur des forts Maginot qui sont en face. Ils auraient pu aussi bien bombarder la ville de Briançon, ils ne l'ont pas fait, je pense que c'était un dessein. En tout cas, ce que les Italiens ne savent pas, c'est qu'à proximité, l'artillerie française a caché, non pas un mortier de 280, mais quatre. Et ça, c'est une photo prise sur un magazine de l'époque, de 1939, un signal ou un genre de... comme ça, c'est le Paris-Match de l'époque. Les Italiens auraient pu le savoir, parce que son reportage a été fait quelques mois avant l'attaque. Et ils auraient pu donc savoir qu'il y avait ces mortiers, ils n'ont pas regardé ce magazine. Parce que ces mortiers, effectivement, vont faire un travail extraordinaire. On appelait ça une victoire dans la défaite, hein, pour nous, pour chez nous. Bon. Et donc, très vite, alors que le Chaberton, qu'on voit là, continue à tirer un peu à l'aveugle sur tout ce qui bouge, tous les forts qu'il a en face de lui, en se disant c'est lui, il y a des coups de mortier qui partent. Les Italiens ne savent pas d'où ils partent, puisqu'ils sont à contre-pente derrière une montagne. Et donc, je passe pour que vous demandiez une autre fois, une deuxième conférence. En deux jours de combat, c'est torché, pardonnez-moi l'expression, et les 6 tourelles sur 8 sont mises hors de combat. Troisième front, également très rapidement passé en revue, c'est autour du Mont-Cenis, Modane, etc. Avec les forçards de l'Essayon, pour ceux qui connaissent. Les principaux faits d'armes vont se dérouler aux environs du col du Fréjus, dans les environs de Modane, d'une part. Alors là aussi, les forts Maginot du secteur tirent presque 8000 obus, hein. Tout ça en 4 jours, hein, puisque l'armistice italien va survenir très rapidement. Et il y a même une batterie lourde sur voie ferrée, c'est pas le canon timide hein, quand même, non. Ça c'était Verdun qui a tiré sur Suse. Les combats sont très durs. Les conditions sont hivernales, alors qu'on est au mois de juin, les conditions sont épouvantables. Vous voyez là toute une colonne de tankettes italiennes qui sont bloquées par le verglas, par la neige, et en plus par les destructions que le génie français a faites. Vous voyez, ils sont obligés de reconstruire les routes. Et donc là, il y aura notamment l'épisode de la redoute ruinée, qu'on appelle aussi le fort de la traversette, juste à côté de l'hospice du Petit Saint-Bernard, du col du Petit Saint-Bernard, où une cinquantaine de Français vont tenir en échec plusieurs régiments italiens avec seulement des mitrailleuses. Parce que on est en contexte montagneux et que le brouillard, etc. Et puis aussi, il faut le reconnaître, les forts alentours bombardent allègrement. Alors, très rapidement, oui, parce que il y a les mots italiens que j'ai trouvés, donc les tankettes italiennes, l'Italie n'avait malheureusement pas pour elle à cette époque de véritables chars d'assaut. Et donc, c'était plus des tanks très légers. Ça leur fera cruellement défaut aussi en Cyrénaïque, etc. Et donc là, on les a surnommés effectivement les boîtes à sardines. Arrigoni, c'était une marque de conserve de sardines à l'époque. Voilà, cercueil de mort ou cercueil d'acier. Parce qu'effectivement, c'était des petits tanks très vulnérables. Et donc nous, notre petite gloriole, c'est qu'en fait, le fort qui a courageusement résisté, au moment de la signature de l'armistice, il s'est pas rendu. Et donc, il a la satisfaction, si je peux dire, de sortir du fort les armes à l'épaule, alors qu'une compagnie italienne, derrière, là, leur rend les honneurs. Vous voyez un chasseur alpin italien, ici. Voilà. Et la tête du sergent-chef qui dirige la colonne est assez illustrative de ce à quoi il pouvait penser dans ces moments assez pénibles. Voilà. Donc, dans ce secteur, les Italiens pénètrent jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Et cette photo d'époque, assez amusante, hein, leur indique qu'il y a le bureau d'accueil de Lens-le-Bourg à 10 km de l'Automobile Club français. Quatrième front, c'est dans le secteur de Lubaye, Lubayette-Restefond. Ce sont les vallées de tête qui, si elles étaient prises, permettraient à l'armée italienne de descendre jusqu'à Marseille par la Durance. Donc là aussi, il va y avoir des combats terribles. Le 22 juin, à 5h du matin, le caporal-chef Arnaldo, qui est de guet dans sa cloche de guetteur, ici, n'en croit pas ses yeux. 200 Italiens, dit-il à son lieutenant par téléphone, viennent de déboucher du col de Stropia et ils descendent en zigzag comme en pays conquis. Le col est noir de monde. Alors en plus, dans cette période de juin, les photos sont actuelles bien sûr, mais il y a des conditions d'enneigement exceptionnelles et également de brouillard. Alors ces combats vont être très durs. Alors là, il y a une tourelle ici qui a été dotée d'un surnom pas très sympathique, puisqu'on l'appelle la méchante. Là, c'est à l'intérieur, donc. Les photos, bien sûr, de tir ne sont pas des photos d'époque, hein, mais je les ai volées sur Internet. Les services de communication de l'armée sont très, très généreux pour cela. Alors, il y a même le vieux fort de Tournou qui reprend du service. Il envoie 583 obus de 75. Je vous l'ai dit, les conditions sont épouvantables. Du côté du col de la Bonnette, le col de Restefond, il y a également une marée de soldats italiens qui déboulent par les cols de Pauriac et le Salso Morène, que l'on voit là, et qui devaient avoir à peu près cet enneigement à l'époque. Et donc, ils sont massacrés, exterminés par le fort de Restefond. Et alors là, je vais davantage développer la bataille pour Menton et pour Nice. c'est effectivement la voie de pénétration la plus facile le long de la côte. Et donc il y a plusieurs épisodes. D'abord le duel à mort entre le train blindé du Cap Mortola, donc qui était d'ailleurs commandé par un officier de marine, on va le voir, et puis les forts de la région qui vont essayer de le contrer pour empêcher la percée italienne. Alors les plages de Menton sont encore aujourd'hui dominées par un fort qui commence à se visiter pour les touristes, qui est l'ouvrage de Cap Martin. Il y a toute une série de forts tout autour de Menton, l'ouvrage de Roquebrune, qui ne se visite pas, et le tunnel italien du Capo Mortola, où je suis allé au printemps, et où il régnait d'ailleurs une atmosphère très très désagréable, parce que donc c'est là qu'il y a eu une tragédie, et auparavant d'ailleurs aussi, des migrants s'étaient fait happer à l'intérieur de ce tunnel. Alors la cloche guetteur de Roquebrune, qui observe Menton et Cap Martin, signale les allées-venues de ce train blindé, qui sort tantôt de son tunnel, dès qu'on commence à le repérer, manque de chance, si je peux dire, pour les artilleurs français, il re-rentre dans son tunnel. Tu me vois, tu ne me vois pas. Et pendant ce temps-là aussi, les Italiens conçoivent un débarquement pour contourner le barrage du Pont-Saint-Louis. Barrage de Pont-Saint-Louis, au poste frontière, hein, il y est toujours, qui n'est occupé que par 9 hommes et un canon anti-char de 37. Et ce Pont-Saint-Louis va résister pendant les 4 jours d'une façon exemplaire. Alors effectivement, un vice-amiral débarque à San Remo et organise le débarquement pour contourner les forts. Il y a également des unités spéciales de la fameuse marine Maes, là, c'est des commandos de la marine italienne qui ont fait, avec le prince Borghese, je crois, qui ont torpillé des cuirassés anglais, etc. Ils sont également dans le montage de ce projet de débarquement. Alors le général, il s'appelle Gastone Gambara, il ordonne une préparation d'artillerie, c'est logique, pour faciliter le débarquement. Donc le train blindé doit intervenir, et puisque c'est une batterie roulante qui est idéale. Quoi. C'est là où c'est des canons de 140, je crois. Et alors c'est là qu'il va y avoir un triste épisode dans lequel est impliqué un géologue. Donc je le mentionne quand même, c'est en fait un lieutenant de vaisseau. Lieutenant de Vassello, Giovanni Ingrao, d'origine sicilienne. Il est géophysicien à l'université de Padoue et il est réserviste. Et je me suis beaucoup passionné par cet homme parce que ça aurait pu être moi finalement, qui était réserviste aussi, bien que j'ai pas eu la chance de ne pas être impliqué dans une guerre. Voilà. Et donc les allées-venues de ce train vont être surveillées par les Français. À partir de l'observatoire du Mont Gros, je suis également très fier de cet observatoire parce que c'est mon père qui l'a construit. Enfin, il n'était pas tout seul. Pour installer la cloche, il m'a raconté qu'ils ont fait ça en 1935. Ils sont montés avec toute une compagnie de chasseurs alpins, et puis des mulets certainement, hein. Et puis ils avaient construit une voie ferrée pour décharger la cloche en acier, la transporter jusqu'au promontoire rocheux où ils l'ont ensuite noyée dans du béton, etc. Voilà, donc c'est presque de la famille. Et donc cet observatoire va évidemment guetter toutes les allées-venues et les signaler aux canons du Montagel qui vont envoyer 3000 obus en 4 jours. Alors c'est un massacre. Et les tourelles, bien sûr, entrent en action. Les tourelles du Montagel, aujourd'hui, sont recouvertes par ces petits chapeaux chinois rigolos. Mais à l'époque, elles avaient bien sûr cette allure-là. Alors, le train blindé, il commence par être encadré, comme on dit, c'est-à-dire qu'à force d'avoir tiré quelques coups, les Français arrivent à régler mieux leur tir, et donc ils envoient un obus juste devant le train blindé et un obus derrière. Il est encadré, donc le coup d'après, c'est bon, les artilleurs vont faire leur réglage plus minutieux, et c'est bon. Alors, le commandant Ingrao téléphone à l'arrière en disant « Je vais rentrer le train dans le tunnel, parce que là, ça commence à sentir le roussi, et je le sortirai plus tard ». Et le général Gambara lui dit non, les ordres de Mussolini sont clairs, donc vous ressortez immédiatement de votre tunnel et vous commencez à canarder ces saligots de Français. Voilà, enfin, c'est à peu près ce qu'il a dû se dire. Et bien donc, ce qui devait arriver est arrivé, le wagon à munitions est touché par un obus, tout explose, et le géophysicien, naturellement, est tué avec une dizaine de marins. On a son portrait ici, c'est l'homme petit. À côté donc du tunnel, il y a cette plaque qui a été malheureusement vandalisée, comme beaucoup de choses dorénavant, qui dit que comme quoi on lui a attribué la médaille d'or
au tenente de vaisselle Giovanni Ingrao et à ses marins. Voilà, alors les blessés seront soignés dans la villa Amburi, qui est une villa sur laquelle se trouve un jardin botanique aujourd'hui, de toute beauté. Et puis le général Gaston Gambara, ben rassurez-vous, il dormira, il finira sa vie dans son lit. Hein. Alors, il aura été accusé de crimes de guerre un peu partout là où il a fait carrière. Et on le voit ici, lui, il aura une fin de vie très agréable. Voilà, alors le débarquement, ben, il va capoter, comme c'est propre à un débarquement, parce que la mer est agitée, il y a la pleine lune, etc. Donc finalement, il n'est pas lancé. Deux autres trains blindés arrivent en renfort, par Vintimille, et donc là, ça se déchaîne, donc les Italiens font jouer la grosse artillerie, parce que là, ils ont pu quand même amener de grosses pièces. Ils déversent 1500 obus sur l'ouvrage du Cap Martin, 3000 sur le Monte Grosso à Sospel et 2000 sur l'ouvrage de la Guésien également à Sospel. Donc voilà ce qui reste de l'ouvrage du Cap Martin après les 4 jours de combat. 1500 obus, mais néanmoins la garnison a tenu bon. Donc des destructions considérables évidemment affectent Menton. Voici une vue du secteur du Cap Martin, aujourd'hui et en 40. Évidemment, vous voyez la différence. C'est aujourd'hui un quartier résidentiel. C'est miraculeux qu'il existe encore le Fort Maginot, que l'on aperçoit là, et qui, je vous le disais, peut à présent se visiter. Du haut de Sainte-Agnès, également, les allées-venues, enfin plutôt les allées des Italiens sont parfaitement repérées, et lui aussi, le Fort de Sainte-Agnès tire... déverse des quantités d'obus. Alors, le même scénario se répète, et pourtant tout ceci n'a duré que 4 jours, hein, mais dans la cuvette de Sospel, dans la région de Castillon, avec l'ancienne voie ferrée du tramway. Le village de Castillon, qui a été détruit avant la destruction par la guerre, détruite par un tremblement de terre en 1938 environ. Le fort de Castillon. Je ne cite même plus le nombre d'obus qui sont tirés, parce que ça commence à être un petit peu lassant. Un aperçu de la violence des combats, des tirs. Pareil pour le fort de la Guésien. Le canon anti-char italien, l'Elefantino, avec son allure très gracile. Menton est l'enjeu de violents combats de rue. Non, ce n'est pas de la contrebande. Les destructions aussi bien à Menton qu'à Vintimille sont considérables, puisque du côté français, il y a des batteries longue portée qui s'en mêlent. Alors, je vous le disais, mais je le répète, malheureusement, la plupart de ces forts sont victimes des ferrailleurs et les associations ne sont pas arrivées à temps. Les ferrailleurs pénètrent par les moindres ouvertures qui ont été laissées et finissent par enlever tout ce qui a de la valeur. Violence des combats, là aussi. L'impact d'un 150 mm sur une tourelle. Bon, même pas mal, hein, quasiment. Et puis donc là, dans le secteur de Sospel, au fort du Barbonnais, alors que les canons de l'ouvrage Maginot qui se trouve là continuent à tirer, il y a un accident. Alors, on a même pensé à un sabotage, peut-être, d'un ouvrier pacifiste, quand les obus ont été fabriqués. Parce qu'on a signalé de très très nombreuses « pannes » entre guillemets au moment d'introduire les obus dans les canons. Ils étaient mal fabriqués. Du coup, les vieilles tourelles Mougin qui se trouvent là depuis 50 ans reprennent du service. Et puis donc l'avant-poste du pont Saint-Louis se défend de façon extraordinaire. Ici, nous avons une photo de M. Michel Troutman, qui est le fils du fameux colonel Philippe Troutman, qui a fait le premier grand livre sur l'aide Maginot. Alors là aussi, des actions d'héroïsme de la part d'un aspirant, d'un lieutenant italien ici, qui s'est fait quasiment couper en deux par un canon anti-char. Et puis finalement, le 25 juin, tout d'un coup, on n'entend plus aucun tir. Le lieutenant Gros, à travers son viseur, il voit des officiers qui essayent de parlementer, mais qui ont peur de s'avancer trop, etc. Donc, quand on sort les écouter, il sort de la casemate et les autres lui disent « ça y est, l'armistice est signé ». Il ne veut pas les croire. Donc, heureusement, il y a un officier français qui arrive et qui leur dit « oui, oui, c'est vrai, l'armistice est signé depuis minuit, vous pouvez cesser le combat ». Et donc là, ils consentent enfin à abandonner l'ouvrage et ils sortent dignement avec les armes et les vivres et ils emportent les clés. Alors on voit encore sur place, et les CRS de garde vont très gentiment laisser approcher, on voit encore la barrière rétractable sur le poste frontière là, de Menton-Pont-Saint-Louis, avec les faisceaux fascistes qui ont été sculptés à côté. Donc évidemment, on dit que même le roi, Victor Emmanuel, est venu pour participer aux festivités. Et donc, ben voilà, l'armistice franco-italien a été signé hier à Rome. Donc les hostilités ont cessé à 1h35. Voilà, donc les armées italiennes sont victorieuses. Bon, ben, dans les faits, effectivement, ils ont réussi à pénétrer dans Menton. Bon, ils sont guère allés plus loin. Hein. Alors dans l'histoire, ben, on va le voir maintenant, c'est les milliers de morts, quoi. Et donc, je me suis amusé à grossir le visage de Badoglio sur ces photos d'époque, où on peut vraiment se demander si lui participe à la liesse générale de la victoire. Il aurait d'ailleurs dit à Hutzinger, qui vient signer à Rome l'armistice, « Voilà, c'est signé, comme ça il y aura moins de morts. On arrête les frais. » Mais en fait, c'est surtout l'armée italienne qui a fait les frais. Alors, pour terminer la conférence, les graffitis. Alors, graffitis, c'est pas très très flatteur, il faut surtout parler de fresques. Ben, c'était des œuvres des soldats pendant la drôle de guerre, qui a duré quasiment 8 mois, hein, et pendant lesquelles ils étaient consignés dans ces souterrains, avec ce stress continuel qu'on a appelé la bétonite. Et donc, pour tromper l'ennui, certains, les plus doués en dessin, ont laissé ces fresques. Alors, les spécialistes en ont fait une typologie. Il y a finalement très peu de symbolique militaire ou patriotique. Il y a surtout de l'évasion, des dessins qui suggèrent des fenêtres magiques. Le décompte du temps qui passe, quand on fait on compte les barres 5 par 5, là, puis on dit voilà, combien il me reste encore au jus, 120 au jus. Des portraits, des caricatures surtout, et notamment des officiers qui ont la gentillesse ou la sportivité de se laisser caricaturer par leurs propres soldats. Des évocations féminines, mais toujours très soft. Il n'y a presque pas de sexualité. Il y a beaucoup d'humour. Et puis, on va voir aussi très très peu de violence, très peu de guerre, très très peu de dessins illustrant la mort. Alors d'abord, quelques fresques patriotiques. Les fresques qui sont dans la chapelle de Schönenburg. Les différents insignes des régiments. Alors, des fresques romantiques, érotiques, poétiques. Alors, notamment, Joséphine Baker, qui, à cette époque, donc, triomphait dans les revues parisiennes. Elle a été peinte de façon remarquable dans le camp des Fourches, au pied du col de la Bonnette. Et en ce moment, le club alpin français, c'est-à-dire un cousin qui participe à ça, qui est en train de rénover ces bâtiments, parce que lui aussi était la victime des pillages et des graffitis parasites. Quoi. La vie est belle. Il y a quand même beaucoup de barbelés, il n'y a pas que des roses hein, qui piquent. Là, ça se passe de commentaires. Alors là, malheureusement, si je peux dire... Au cours des différentes phases d'occupation, vous voyez, effectivement, certains militaires ont gratté les endroits symboliques du corps. Bon, c'est sûr que ça devait être pesant. Joséphine Becker encore. Alors souvent, on représente aussi Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est vrai que c'est l'époque des premiers dessins animés hein, qui apparaissent. Là, ce sont des forts, le fort du col de Bruisse, près de Sospel. Évasion. Là, c'est au fort de Flotte, près de Saint-Martin-Vésubie.
Là, on pourrait penser que c'est le pont de Sospel. Paris. La Côte d'Azur. Des angelots bien sympathiques. Quelques caricatures, notamment dans une cloche de guet. Là, c'est un soldat allemand qui a caricaturé un copain. Les ménestrels. Les dégourdis de la 11e. Là, Mickey aussi. Mickey qui place des mines sous les chars allemands. Ils ont des casques, non pas à pointe maintenant, on reconnaît les casques allemands. Ça, c'est en Lorraine. Enfin, je ne sais pas trop plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça doit être humoristique. Ça aussi, regardez par le râteau, par le petit bout du râteau. Le professeur Nimbus est très souvent représenté. Mickey, donc, comme je disais, et les sept nains, Blanche-Neige. Pense à ce que tu aimes et ta peine te paraîtra plus légère. Là, c'est des scènes du Metz. Les médecins. Et c'est presque fini. Alors, les scènes médicales sont vraiment un régal. Ces œuvres-là que vous allez voir, elles ont été peintes à l'ouvrage du Bois de Bousse en Lorraine. Et c'est Daniel Dervaux, qu'on sait qui a été l'artiste, Daniel Dervaux qui les a peintes, qui était d'ailleurs un graveur dans le civil, très doué. Et donc là, c'est l'infirmerie, le commandant d'ouvrage, qui est un commandant de réserve, mais qui était avocat dans le civil, donc, est représenté, avec ses principaux lieutenants, et puis donc un patient qui attend de pied ferme ici, avec une seringue à bromure, qui trempe dans du bromure. C'est la salle des... Torture, bien sûr. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire, mais peut-être pas beaucoup de temps. Voilà. On dirait d'ailleurs qu'il frappe à la porte avec un obus, mais bon, il n'a pas explosé. Et là, c'est le dentiste dans son exercice. Et là, effectivement, le commandant Wolf, qui, faut croire, soit qu'il passait son temps à bouquiner. Mais en fait, plus vraisemblablement, s'il a permis effectivement qu'on décide cette fresque, c'est que t'es un brave type. Voilà, alors pour conclure, ce qu'il faut retenir au point de vue des aspects positifs de la ligne Maginot, et bien sûr je laisserai les personnes présentes donner leur point de vue, d'abord ça a été une réelle innovation et une remarquable réussite technique par rapport à l'improvisation qu'on a vue en 14-18. Grâce à cela, une attaque brusquée d'Hitler a été empêchée. C'est vrai qu'on s'est accordé, grâce à cette ligne Maginot, 7 ou 8 mois de répit, pendant lesquels on a pu mobiliser, on a pu prendre notre temps. Alors malheureusement, on n'avait peut-être pas les meilleurs généraux à l'époque, ce qui fait qu'on a pris trop notre temps. Notamment, il y a eu une offensive qui a été lancée, et on voit dans les comptes rendus, les historiens, entre l'ordre donné par Gamelin au général Georges de lancer une attaque à partir de la ligne Maginot, au moment où les Allemands sont en train de tordre le cou à l'armée polonaise, notre allié. Donc l'ordre part de Paris de lancer l'attaque, et il va mettre 8 jours pour se décider, le général Georges, à transmettre l'ordre, et puis, ah oui, mais aujourd'hui il pleut, ah ben non, c'est pas favorable, etc. Le temps qu'il se décide, finalement, il pénètre juste de 8 kilomètres, et puis dès qu'il rencontre des barbelés, il donne l'ordre aux troupes de rentrer, se mettre à l'abri des forts. Et donc c'est ça. Ça sera notre seule gesticulation offensive pendant la drôle de guerre. Ça se limitera à ça. Donc autrement dit, ça n'a malheureusement pas bien été utilisé, cette ligne. Bon, dans les Alpes, l'invasion italienne, ça c'est sûr, a été stoppée net. Et ça nous a permis de ne pas être occupés, tout au moins jusqu'en 1942. La devise « on ne passe pas » a été respectée. Et également, c'est vrai qu'on a bien résisté aux attaques d'avions, ce qui était assez remarquable. Au plan plus général, bon ben, malheureusement, mais ça c'est une faute de l'état-major et des politiques aussi, hein, qui se sont enfermés dans une logique de protection et de repli sur soi, on a effectivement pas soutenu à temps nos alliés, les Tchèques d'abord et puis les Polonais ensuite. On savait aussi que la ligne obligerait Hitler à passer par la Belgique. On a bien fait un plan, mais c'était pas le bon, hein, puisqu'ils sont passés par les Ardennes. Et également aussi, on n'a pas vraiment profité de cette ligne pour économiser des réserves qui auraient pu être ensuite lancées ailleurs. Du côté italien, d'une façon générale, Mussolini n'a jamais su, dans toutes ses campagnes, se doter des moyens de sa politique, notamment d'une industrie militaire, de construction militaire importante. Et également, on peut dire maintenant avec le recul qu'il a été trop ambitieux. Voilà. L'infanterie, dans ces quatre jours de guerre, malheureusement, elle n'a pas été soutenue par l'artillerie lourde italienne parce que pendant des mois et des mois, elle était restée bien en arrière et ce n'est qu'au dernier moment que Mussolini a lancé l'ordre de se porter en avant. Donc l'artillerie lourde n'a pas suivi puisque l'école était enneigée. Curieusement, d'ailleurs, il y a eu très peu d'interventions de l'aviation et encore moins des marines de guerre qui auraient pu copieusement arroser la région de Menton, par exemple. En tout cas, et c'est le témoignage du général Montagne, en 1951, dans ses mémoires, la valeur individuelle du soldat italien n'est pas en cause. L'action a été menée avec vigueur. Les unités attaquantes ont été conduites par de jeunes officiers fort courageux qui sont souvent tombés bravement à la tête de leurs troupes. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est le nombre incroyable de gelures. 2151 hospitalisés. Alors effectivement, l'équipement n'était pas à la hauteur. On a parlé notamment des défauts du lanital, qui était un textile d'économie de guerre, hein, mais dérivé de la caséine du lait. Et des témoignages disent que les capotes fondaient sous la pluie. Des brodequins avec des semelles en carton. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est l'humanité qui a régné pendant ces quatre jours de bataille. Marie Jovée de Piémont, qui était aussi donc princesse de Belgique et qui deviendra très brièvement reine d'Italie, a rendu visite aux blessés des deux camps. Ici, on voit des officiers italiens commenter sans doute le trou dans un casque français. Et il y a eu aussi de très belles pages écrites par Curzio Malaparte. Sur les combats. Un petit clin d'œil humoristique qu'on a pu voir dans le village de Boramant, en Savoie, à côté d'une plaque commémorant les morts de la commune de 14-18. Les Italiens ont ajouté ce petit panonceau et un bouquet en passant, et sommet Jack de la 59e aux tombés français, aux tués français. La 59e, c'était le bataillon ou le régiment du colonel Antonio Squero. Et donc, c'est Claude qui m'a expliqué, et sa femme aussi, hein, qui m'a expliqué qu'en fait, c'est un témoignage de la part des sommegiati, c'est-à-dire les soldats muletiers, qui étaient un peu des privilégiés dans l'armée italienne, puisqu'une partie de leur pactage était transportée par les mulets, contrairement aux autres qui allaient à pied de bout en bout, mais qui étaient quand même certainement des bêtes de somme. Voilà. Et puis là aussi, sur des monuments aux morts de Savoie, en passant, les Alpini ont laissé, vous voyez, des petits témoignages d'affection aux tués français, le génie militaire aux tués français. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps. Enfin, en tout cas, personnellement, je peux répondre à vos questions très volontiers.
Merci.
Bon, merci beaucoup.